Et il continue à nous expliquer, Lacan, que... Alors là, il y a une phrase de Lacan dans son style qui me fait rire, me rouler par terre de rire. C'est, il dit, eh bien, nous avons été vaccinés contre ça, le dieu Pan, le fait que la nature sait lire. Nous avons été vaccinés contre ça par Freud, grâce à l'affaire Jung. Vous voyez, il est en train de nous dire que Jung, c'est le dieu Pan, la nature sait lire, l'universel, c'est naturel, c'est dans la nature. Et c'est lié à une forme de binarisme, de, vous voyez, de hérisson, non-hérisson. Alors là, il dit une chose très rapide, Lacan, il dit d'ailleurs, vous savez, dans la logique moderne, contemporaine, au XXe siècle, on s'est beaucoup occupé du tiers exclu. C'est tout le débat qui tourne autour de Brouwer et de Hilbert, à propos du tiers exclu, hein, ce qu'on a appelé les formalistes et les intuitionnistes. Il dit, c'est pas très intéressant, mais c'est vrai que ça leur a posé un problème, le tiers exclu, est-ce qu'on peut l'employer ou pas, dans les cas finis, dans les cas infinis, c'est le débat entre Brouwer et Hilbert, c'est un des thèmes principaux du débat qui continue, qui n'est toujours pas résolu, qui continue encore aujourd'hui à faire des ravages, vous voyez, jusque dans l'économie. C'est-à-dire que tous ces gens, qu'est-ce qu'ils font avec ça, avec de l'Aristote? Ils essayent de faire un modèle de la nature. Et ils essayent de faire des modèles. Le problème économique là, qui vous avez vu, c'est pas la peine d'envoyer des types se faire dézinguer, en dézinguant d'ailleurs tous les passagers des avions qu'ils ont empruntés pour en faire des missiles, et tuer 3000 personnes à New York pour faire que les New Yorkais viennent pleurer en disant qu'ils sont des victimes. C'est quand même insensé de vouloir tuer tant de monde pour faire tomber Wall Street. Ça tombe tout seul, Wall Street, vous voyez. Pas besoin de faire tant de dégâts. Alors l'autre, il crie au terrorisme. Il cherche un ennemi. Un tas de cailloux, l'Afghanistan, l'Irak. C'est quand même pathétique de voir que tous ces gens, ils ont des modèles, ils veulent avoir des modèles prédictifs. Ils utilisent la lettre pour faire des modèles. Ils font tourner le modèle et ils voient si ça marche. Bon, il faut déjà que ça marche pour les hypothèses qu'on veut modéliser. C'est vrai, c'est la moindre des choses. Si le modèle que vous construisez ne coïncide pas aux hypothèses que vous voulez développer, c'est un peu con, quoi. C'est raté. Mais de toute façon, ces modèles, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Et ça tombera toujours. Pas besoin d'être, même d'être marxiste, enfin Marx l'a dit, Staline l'a répété, mais quand même c'est pas la peine de se prendre la tête pour voir que ces modèles ça marchera jamais. Et la différence qu'il y a entre ces modèles et ce que je vous propose de considérer ici, c'est justement ce qu'on va discuter, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas un modèle, qui est d'utiliser l'écriture non pas pour dupliquer, faire un modèle, pour obtenir une prévision qui peut marcher un moment, puis qui va se casser la gueule, une bonne martingale, qu'il y a une autre façon d'utiliser l'écriture, c'est de s'impliquer comme sujet dans ce qu'on n'arrive pas à lire, ce qu'on n'arrive pas à écrire, et ce qu'on peut quand même, ce qu'on n'arrive pas à dire, c'est ça la psychanalyse, c'est le transfert, et qu'on arrive quand même à gagner du terrain en produisant quelque chose qu'on peut écrire. Qu'on n'écrit pas dans la psychanalyse pour modéliser, les pauvres mecs qui croient que les topologies des nœuds c'est fait pour modéliser l'appareil psychique de Freud, vous savez. Je m'en suis aperçu à la lecture d'un type qui fait une explication lumineuse là-dessus, à mon propos d'ailleurs, à propos de ce que j'ai fait avec les schémas de Lacan. C'est extraordinaire. Je me suis rendu compte, j'ai jamais pensé une chose aussi crétine, mais enfin il paraît que c'est courant. Certains croient que Freud est toujours un neurologue. Et c'est même la plupart des analystes freudiens et lacaniens pensent comme ça. C'est pour ça que la neuroscience, la neuropsychanalyse ou la neurologie ou la neuro, je sais pas quoi, le neurocognitivisme fonctionne très bien, parce que les freudiens eux-mêmes désirent la neuroscience. Alors tout le monde est content, mais ensuite ils vont gueuler contre ça parce qu'ils vont perdre le pouvoir auprès des marchandages avec l'État pour savoir qu'est-ce qu'on fait, quoi. Comment pomper l'argent des psychothérapies, mais c'est un scandale. Mais n'empêche qu'on est dans cette fourchette d'Aristote et du dieu Pan. Vous ne vous rendez pas compte que c'est Jung. C'est pour ça que la phrase de Lacan, je vous propose de la goûter, de l'apprécier particulièrement, quand il dit Nous avons été vaccinés par Freud grâce à l'affaire Jung. Ça veut dire que l'épistémologie, ce qu'on appelle l'épistémologie, la conception de la science, cette histoire de modélisation pour intervenir d'une manière industrielle et capitaliste, que ce soit dans l'industrie ou dans la finance, c'est du Jung. Vous voyez, on est mal barré. C'est jungien. Là, quand il nous dit, voilà, cette fascination pour l'universel qui serait la nature sait lire, ça va jusqu'à Kant. Même Kant lui-même, il croit que la logique, elle est celle d'Aristote, il n'y en a pas d'autre, et qu'elle est sortie, comme il l'écrit dans sa logique, Kant, tout armé du cerveau d'Aristote. Bon, eh bien, Platon, nous dit Lacan, c'est pas comme ça. Platon, lui, il parle de la dichotomie, mais c'est pas le binarisme du tout ce qui n'est pas hérisson et non hérisson. Parce que la dichotomie, c'est une série en arbre de dichotomies successives. Chaque terme se retrouve divisé en deux, et ça se démultiplie. Ça, c'est pas du 2, c'est du 2 puissance n. Voilà, c'est 4, 8, 16, vous voyez. Eh bien, 2 puissance 2, c'est Freud. 2 puissance 1, c'est la logique d'Aristote. 2 puissance 2, c'est Freud. Le 2 devient 4, et entre le 2 et le 4, il y a le 3. Eh bien, vous, le 3, vous le trouvez ici. 2 puissance 3, c'est 8. 2 puissance 4, là, vous retrouvez du 2 et du 4, c'est 16. Bon. Voilà. Le 3 entre le 2 et le 4, c'est aussi bien le 4. C'est aussi bien le 8 entre le 4 et le 16, vous voyez. Donc, il faut apprendre à compter. L'espace compte, et il sait compter. Il peut se tromper, hein, on peut faire des erreurs de calcul. D'ailleurs, Lacan, quand il dit l'espace, c'est justement, ça fait partie de l'inconscient, je vous fais remarquer qu'il a, il a dit cette chose très instructive qui devrait vous donner à réfléchir. Si vous avez lu la lettre de Hegel que j'ai distribuée l'année dernière, je leur distribuerai si certains n'ont pas eu, où Hegel dit à son correspondant, c'est, travaillez, continuez votre, vous êtes malade de votre travail, vous n'arrivez pas à travailler parce que ça vous rend malade. Prenez un peu de champ, du recul, reposez-vous et puis retournez à votre travail, parce que c'est ce travail qui vous rend malade qui va vous guérir. Ça, c'est la psychanalyse, c'est pas la psychothérapie, ça. C'est pas pour essayer de s'adapter. C'est au contraire, en avançant dans le transfert et le grossissement du symptôme, qu'on arrive à trouver la solution. Alors, on ne peut pas proposer ça à quelqu'un pour lui dire que c'est comme les vacances, ou comme le kiné, ou comme le club méditerranéen, ou comme le musée, qu'on peut faire ça avec les pieds écartés comme ça, en buvant une vodka au bord d'une piscine. C'est la psychanalyse, c'est pas un truc à... Il faut favoriser ceux qui veulent le faire, mais on ne peut pas inciter les gens à faire ça, parce que se rendre malade pour guérir, c'est ce que dit Hegel. Et vous voyez, c'est aussi difficile que ce que vous lirez dans Thomas l'Obscur de Blanchot. Mais par contre, Lacan nous dit, Aristote, Kant, et pourquoi pas Sade, ça vous donne une nouvelle lecture de Kant avec Sade. Ça. Kant, pourquoi pas Sade? Eh bien, ils sont, c'est Jung, c'est la nature. C'est pas seulement la perversion du marquis, là, du libertin du 18e. C'est aussi ce truc qui s'appelle vitalisme, ce qui conduit au vitalisme. Et vous remarquerez que depuis la prise du pouvoir là, du libéralisme, comme l'a écrit là, le philosophe américain qui commentait Kojève, qui avait parlé de la fin de l'histoire. Il a un nom japonais, vous savez. Fujiyama. Il s'appelle pas Fujiyama, oui. Ça, c'est la montagne. Bon, il a écrit un article qui a été reproduit en français dans Le Monde, dans lequel il dit que Thatcher et Reagan, c'est la fin de Thatcher et Reagan, septembre 2008, bon, mais... Il dit que ça a permis le développement des neurosciences et de l'informatique, Microsoft. C'est un fait. Et de la biotechnologie. Bon, vous voyez qu'on est. J'ai écrit un texte sur le langage coincé entre la nature, l'organique, le biologique d'un côté et le mécanique de l'autre, ou l'électronique, ou la machine, entre organisme et machine. J'ai essayé d'écrire un texte pour isoler, grâce à Canguilhem, ce qui est proprement du langage. Bon, mais dans le cartel de logique que nous faisons, j'ai pas encore eu de réponse ni de commentaire sur ce texte. Donc je me suis arrêté, j'attends. Mais on a l'air de penser que c'est une espèce de lubie que j'ai de m'inquiéter du fait qu'on essaye de faire disparaître le langage entre de la biotechnologie et de l'électrotechnologie. C'est ce qui se passe, il y a une dégradation, ça donne Alzheimer, si vous voulez. C'est pas très compliqué. Quand vous parlez plus à un vieux, hein, si vous lui parlez comme à un nourrisson, en lui disant t'as fait pipi, papa. Vous voyez, le pauvre vieux, il va plus pouvoir faire une phrase. Alors ensuite, l'aphasie, ça vient très vite, vous voyez. Et puis, très vite, il va perdre la mémoire, il ne va plus se souvenir des mots. On ne sait pas si c'est aphasique ou autre chose. Bon. C'est quand même extraordinaire. J'ai appris que les Espagnols, quand ils parlent du syndrome d'Alzheimer, ils disent l'ami allemand. Mon ami allemand me joue des tours. On dit ça en France ?
En espagnol. Oui.
En espagnol, on dit. Hein. Oui. Moi, je ne connaissais pas ça. Vous voyez, bon, ben, disons que c'est un peu l'ennemi allemand là. Enfin bon, mais l'ami allemand en question, c'est Alzheimer. Moi, je crois que c'est aussi l'ennemi américain ou l'ennemi hollandais. Je ne veux pas désigner une pauvre nation comme étant la responsable de l'impérialisme. Ce qui m'intéresse plus de voir, c'est que structurellement, c'est que Aristote, Kant, Hume, c'est la même chose, et que l'épistémologie du modèle, c'est une modélisation liée à un espèce de délire de l'homme-machine. L'homme biologique, je ne sais pas moi, Frankenstein, je ne sais pas ce que c'est que ça. Et que, qu'est-ce que nous dit Lacan ? Il nous dit, Platon, lui, il est lacanien, ça veut dire qu'il n'est pas là-dedans. Et à quoi réfère Lacan à ce moment-là ? Platon, il le réfère, Platon, à la pensée sauvage de Lévi-Strauss. Vous lirez ça ? Dernière leçon du séminaire d'identification. Lacan nous dit qu'il laisse à la charge de Lévi-Strauss ce bon mot qu'il trouve assez ironique. De Lévi-Strauss, dans La pensée sauvage, parle de l'état sauvage. Alors qu'est-ce que c'est que la pensée sauvage, l'état sauvage là? Qu'est-ce que c'est que Lévi-Strauss? C'est le phonème, c'est-à-dire que c'est que les éléments de la langue, ce qu'a très mal expliqué Saussure avec le signe linguistique, c'est pas qu'ils sont collés avec leur signifié, les signifiants, c'est qu'ils sont, ils n'ont aucune valeur intrinsèque. Bon, Hegel, lui, de cette idée-là, il en déduisait la liberté du sujet, de l'humain, à la suite de Kant. Mais vous voyez que c'est autre chose qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la table rase, c'est pas ce qu'a donné tout l'art moderne. Ce phonème a donné l'art moderne. Ça donne Schoenberg, la musique dodécaphonique, ça donne Kandinsky, la peinture concrète. On peut tout recommencer avec rien si c'est vrai que le phonème, ça n'a aucune signification intrinsèque. C'est ce que recherche dans le contraire du phonème, parce que ceux qui n'ont pas compris ce que c'est que le phonème qui donne le signifiant dans le champ auditif chez Lacan et la lettre dans le champ graphique chez Lacan, c'est des réalisations du phonème dans la langue, puisque la langue, elle est parlée ou elle est écrite. Il y a ces éléments qui n'ont aucune signification, ils sont pris dans un système phonologique. Ça, c'est un mot de Saussure, c'est le seul bon mot de Saussure. Ce que Lacan appelle la langue en un seul mot, là, les pauvres cléniens, là, les analystes lacaniens, ils croient que Lacan, quand il parle de la langue, c'est parce qu'il y a la langue, la langue, il y a la au début. Alors ils croient que c'est du balbutiement d'enfants un peu niais, vous savez, comme on parle aux enfants, là, la, tu vas faire pipi. Bon. Non, mais c'est incroyable. La langue, pour Lacan, c'est l'objet de la linguistique, c'est le système phonologique, c'est ce que Saussure appelait langue. Mais chez Saussure, c'est très insuffisant, parce que lui, ce qu'il considérait comme parole, c'était la diachronie. Simplement la diachronie, le caractère linéaire de la réalisation d'une séquence de langue. C'est ça la parole. Pour nous, c'est absolument insuffisant, puisque il se passe quelque chose entre le corps mammifère, la nature, l'organique et le langage, qui nous constitue, ce qui fait que nous avons affaire à la fonction imaginaire, organique, éthologique, ce que vous voulez, mais de la fonction imaginaire du phallus symbolique. Et c'est très difficile à distinguer entre cette fonction imaginaire et ce phallus symbolique. Il y a une dimension de parade dans le phallus, dans cette fonction imaginaire, mais c'est plus... Alors c'est plus quoi? Et là, au début du séminaire Le Symptôme, Lacan, il nous dit la chose suivante, il nous dit « Ne vous laissez pas aller à dire que le sexe n'est pas naturel. » Alors, c'est vachement une bonne indication. Vous voyez la difficulté. « Ne vous laissez pas aller à dire que le sexe n'est pas naturel. » Donc, on ne peut pas dire que le sexe n'est pas naturel. Mais est-ce que ça veut dire que le sexe est naturel? Non plus. Vous voyez, on n'est plus dans cette affaire de Aristote. On a affaire à quelque chose qui est tel avec sexe qu'on ne peut pas dire que c'est pas naturel, mais dire que c'est naturel, c'est Jung. C'est Kant, c'est Sade, c'est les Lumières, c'est Aristote, c'est la science, c'est l'épistémologie du modèle qui essaye de modéliser la nature. Vous voyez ? C'est des gens qui ne comprennent rien au sujet qui est le sujet du côté du phallus symbolique. C'est-à-dire que le phallus symbolique, ça va donner l'intuition, le trait unaire, la lisibilité. Ça va aller jusqu'au nom du Père et jusqu'au sujet supposé savoir. C'est-à-dire que c'est la série des semblants. C'est les choses lisibles, voilà, qui, avant d'être une lettre, dès que c'est même de la, quand c'est encore de la parole, et moi je vous dis, Freud, c'est de découvrir que le corps écrit. Les rêves, chaque nuit, il écrit un texte, le corps. Ce n'est pas une histoire qu'il raconte, il écrit l'histoire qu'il raconte, avec des morceaux, de corps, morceaux de la famille, morceaux. Bon, il écrit. Mais Lacan, il dit, lui, ça parle. Vous voyez la difficulté que je suis en train d'essayer de vous indiquer, qui fait que tout le monde tourne jungien, parce qu'on va au plus simple. Alors, si on ne peut pas dire que ce n'est pas de la nature, donc c'est de la nature. Tout le monde fait comme Aristote. Donc, vous avez là la difficulté de vous rendre compte qu'il s'agit de quelque chose qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas de la nature, mais on ne peut pas dire que c'est de la nature. Il y a quelque chose qui se passe à la hauteur du trauma, quand l'enfant découvre la dimension de la parole dans le langage, ce qui conduit à Lacan à dire, beaucoup mieux que moi, d'une manière beaucoup plus radicale, ça parle. Et moi, je vous dis, Freud, c'est la découverte que le corps, c'est... Alors, je vais améliorer ma formule, c'est pas qu'il écrit, c'est que c'est lisible, ce qu'il produit. Même quand il bave. Hein. Tout ce qui nous intéresse, c'est quand c'est lisible. Sinon, ça ne présente aucun intérêt. Tout ce qui est pré-œdipien n'a aucun intérêt. Les pulsions, ou comment on appelle ça, les stades pré-œdipiens. D'ailleurs, Lacan, il dit, je vous propose de les appeler, c'est impensable dans la structure, stade ou pulsion pré-œdipienne, il dit, appelons-les pré-génitales, pour la pulsion orale et la pulsion anale. Pour le tribe, pour le phonème anal ou le phonème... justement, oral, c'est-à-dire l'élément qui va devenir, qui est prélevé sur le corps à la hauteur des orifices, mais qui va devenir des éléments littéraux, des éléments... Alors, ça parle, c'est du côté du signifiant, ça écrit, c'est du côté de la lettre. Et le lien entre la lettre et le signifiant, le lien entre la parole et l'écriture, c'est là que nous nous trouvons comme symptôme. Le sujet, il est produit par... quelque chose qui fait tension, qui tombe sur le corps, qui est comme une espèce de faille qui le coupe en deux ou en plus de deux, en morceaux, qui fait dévier l'écriture, le langage fait dévier tous les éléments du corps, et c'est grâce à ça qu'il surmonte sa prématuration. Et ce que je vous raconte là, c'est pas pour fabriquer un modèle, c'est pas pour faire une conception du monde, c'est juste pour dire, c'est plutôt pour critiquer les autres modèles et les autres conceptions du monde qui s'arrêtent justement toujours quelque part avant de se poser le problème vraiment sérieux, solide, hein, insoluble, qui est le problème que nous nous posons qui s'appelle le désir. Le désir, c'est cette faille, c'est cette apparente incohérence qui nécessite que le sujet surmonte cette incohérence en décidant, en s'impliquant, en choisissant, en accomplissant quelque chose, et quand il accomplit quelque chose, il accomplit quelque chose qui s'appelle, qui à un moment doit passer par l'écriture. Ça, c'est la théorie du fantasme. Alors voilà pourquoi il faut, on peut remplacer par l'écriture le nœud en ficelle, vous voyez. Et l'écriture du mouvement nœud, c'est quelque chose comme ça. On inverse un triskel. C'est-à-dire le fil qui est là, qui passe au-dessus du croisement des deux autres, à l'intérieur de l'ouverture que forment comme un V les deux autres branches, les deux autres brins, les deux autres bâtons. Ça, c'est un coincement. Ça, c'est un coincement. Vous voyez ? C'est un coincement comme ça. Et si vous changez un quelconque de ces craies, vous obtenez l'autre. Il y a deux triskels alternés. Celui-là n'est pas le même que celui-là. Mais pour bien le voir, il faut considérer que ces points-là sont fixes. Pour l'apprécier bien, pour pouvoir l'employer. Vous voyez ? Ça, je vais les appeler A, B, C, D, E, F. Et qu'est-ce que vous constatez de miraculeux qui fait le sel de la terre, qui est inexplicable? C'est que si je les mets toujours dans le même ordre, sans changer l'ordre périphérique de ces lettres, qu'est-ce que vous constatez? C'est pour ça que ça marche, le mouvement nœud. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que AD reste AD, que FC ou CF reste CF, que BE c'est toujours EB, vous voyez, que les trois éléments de corde n'ont pas, eux, changé dans leur identité, mais ils ont changé dans leur disposition mutuelle. Il y a quelque chose qui s'inverse, il y a quelque chose qui se retourne, il y a quelque chose qui change, et c'est comme ça qu'on fait un nœud et qu'on défait un nœud, vous voyez. Alors moi j'ai inventé un petit système grâce à Terrasson, là j'appelle ça le graphe de Terrasson. C'est même que si vous voulez être sûr de bien figer au début pour apprendre, parce que Yann Denner m'a dit que c'était bien, c'était assez clair pour apprendre à utiliser le mouvement nœud, vous pouvez comme ça mettre un cercle qui traverse ces six points, hein. Et vous voyez qu'il y a une portion de ce cercle ici dans cette zone, il y a une alternance de zones, il y a six segments, et que ici je mets les mêmes points. C'est pour me repérer dans le nœud où je vais avoir affaire à des pleins et des vides, quand j'utilise le coloriage et les surfaces d'empan. Ça permet d'avoir un instrument, le rond bleu, c'est un instrument pour mieux utiliser le mouvement nœud. Alors vous voyez, Lacan, il le fait dans le séminaire du symptôme, il le fait pour transformer ceci. Il va transformer ça en ça. Dessin très énigmatique que personne ne commente. Qu'est-ce que ça vient faire dans le séminaire, le symptôme, ce dessin? C'est que Lacan, il voudrait nous en parler, mais dans le séminaire, il n'ose pas, ou il n'y arrive pas, ou il fait semblant de ne pas vouloir. Je ne sais pas, moi, c'est ses oignons, moi je ne cherche pas à interpréter Lacan. Le problème, c'est que Lacan, il l'a dessiné, puisqu'il y a quelqu'un qui, sans savoir très bien à quoi ça peut rimer, l'a reproduit dans le séminaire, et que ça se retrouve reproduit dans la version... aussi bien celle qui sert de modèle aux autres, celle de Lally, que celle du seuil. Vous voyez ? Regardez, c'est dans la leçon du 10 février 76. Vous avez ici le nœud trèfle, vous avez le nœud borroméen, et vous avez cette espèce de triple hélice qui est le produit du mouvement nœud sur le trèfle. Je vous montre. Comment ça peut se lire, ça ? Comment ça peut s'écrire ? Comment on peut apprendre à pratiquer ça ? Mais on peut apprendre à pratiquer ça, regardez, en mettant le diagramme, en cherchant les six points A, B, C, D jusqu'à F. Si je prends un cercle, maintenant je déforme le cercle, parce que le nœud m'oblige à déformer le cercle. Mon cercle, il est un peu tordu. Ce cercle, il se retrouve ici. Vous voyez ? Avec le... Là, alors je suis dans la situation ici où j'ai un point blanc, et là, c'est le point A. Mais c'est le point A de la seconde figure. Vous voyez, ici, vous avez ce rapport-là. Vous avez A ici, vous avez B ici, vous avez C ici, vous avez D ici, vous avez E ici et vous avez F ici. Bon. Et les points que j'ai marqués sur le cercle de Terrasson, c'est comme ça. Bon. Ben, si vous faites le mouvement nœud dans l'autre sens, vous obtenez ça. Vous voyez ? Vous allez obtenir ici le point. Alors là, vous avez le point A, le point B, le point C, D, E et F. Bon. Alors, de quoi s'agit-il dans ce mouvement nœud ? Bah, si vous décomposez, c'est comme pour apprendre à danser, pour apprendre à écrire, c'est comme pour apprendre un instrument de musique, à jouer d'un instrument. Il faut décomposer, mais ensuite il faut lisser le truc. À un moment donné, il faut effacer un peu tout ça. Parce que si vous commencez à faire des cercles de Terrasson sur les dessins, hein, vous voyez apparaître le mouvement nœud dans le mouvement qui passe de ce dessin à celui-là, qui se trouve dans le séminaire. Vous avez une explication de ce qui se passe. Mais vous ne pouvez pas le pratiquer comme ça. Vous voyez bien que si dans un dessin, regardez, si je vous fais le mouvement nœud maintenant sur le borroméen, vous voyez, ce qui va demander du pas mal de temps de travail, de temps d'exercice, je ne veux pas insister sur le travail, ce n'est pas du stakhanovisme, bien que le mot travail, il joue un rôle, hein, dans Freud, c'est bien le travail du rêve, c'est bien. Mais c'est quand même cette histoire de perlaboration, c'est pas une histoire de répétition quelconque, ou de réminiscence, ou de. La répétition freudienne, c'est quelque chose qui a à voir avec le travail, ou la perlaboration, ou l'élaboration au travers, la translaboration. Il faut le faire. Ben moi, je peux le faire, j'ai appris à le faire, Lacan le fait. Alors, ça, il le fait sans rien dire, apparemment, dans le séminaire Le Symptôme. Hein. Leçon de février. Ça, il le fait dans la dernière leçon avant la dissolution de son école. Vous voyez comment il le fait ? Il fait le mouvement nœud sur le triskel central. Si je fais le mouvement nœud sur le triskel central, ça donne ça. Je garde ce croisement-là. Je conserve ce croisement-là. Et le fil qui est là, vous voyez, qui passe là, je le fais passer de l'autre côté. Au lieu de le faire passer de ce côté-là, je l'efface et je le fais passer de l'autre côté, ce fil. Il passe là. Alors, s'il passe là, mais d'une manière alternée, vous voyez. Là, vous aviez un triskel comme ça. Il faut maintenant que ce soit un triskel comme ça. Il faut que le fil fasse de l'autre côté. Donc, j'ai un fil qui va passer. C'est ce fil-là que je vais faire passer de l'autre côté. Hop. Donc je le fais passer de l'autre côté, mais ça doit être alterné. Donc si j'ai gardé le croisement que j'avais, qui me sert de moyen de m'orienter dans ma figure, ce croisement, le fil ici, il passe au-dessus. Donc il doit passer en dessous. Donc voilà, il passe en dessous. Et celui qui passe en dessous dans ce croisement, il doit passer au-dessus pour que ce soit alterné. Donc vous voyez, je le fais sans le diagramme de Terrasson. Il faut apprendre à le faire. Il faut oublier le diagramme de Terrasson, mais il faut toujours revenir au diagramme de Terrasson. Si vous vous plantez, si vous ratez votre coup, il faut réfléchir comment je me suis trompé. L'instrument diagramme de Terrasson, c'est un moyen d'analyser ses propres erreurs, mais il faut se jeter à l'eau à un moment donné. Il faut, vous voyez, je vous dis, quand vous apprenez à danser, il faut décomposer le pas, et puis ensuite, à un moment donné, il faut lier le truc. Vous comprenez ? Je ne veux pas jouer des claquettes. De la musique. Alors voilà. Regardez, qu'est-ce qui se passe après ? Bien après, si ces trois croisements ont été transformés en ces trois-là, la croix qui était ici, le petit astérix que j'avais mis là, vous voyez, il y a un point ici, le point qui est là, le fil, il est passé de l'autre côté. Alors ici, qu'est-ce que vous constatez ? C'est qu'il passe comme ça. Hein, ici, ce fil, il passe en dessous. Ici, il passe en dessous. Et là, ce fil, il passe au-dessus pour revenir rejoindre ça. Et qu'est-ce que vous constatez ? Que ici, il y a plus de fil entre ce croisement et celui-là. Donc, les choses se présentent comme ça. Et donc, tout ça se défait.
Pourquoi ?
Parce que le fil qui venait coincer cette maille non alternée, il n'est plus là pour l'empêcher de glisser. Et quand vous avez quelque chose qui est comme ça et comme ça, vous pouvez les faire glisser pour les avoir comme ça. Vous voyez ? Vous tirez par là d'un côté, vous tirez par là de l'autre. Ça, c'est de là se sépare. C'est de là se sépare aussi, c'est de là aussi. Le nœud borroméen se défait. Donc le mouvement nœud, il défait. Sur cette figure, je peux remettre mon diagramme de terrasson. Si je veux voir ce que j'ai fait, je vais le mettre ici.